Voilà, merci Jean-Louis. Tout d'abord, quelques mots pour rappeler le plan de l'ensemble des conférences du chanoine allemand. Il s'agissait donc de la liturgie présentée dans la forme qu'elle a depuis 1969. Et le chanoine allemand montre l'intérêt des changements quand l'Eucharistie est, à partir de différentes considérations sur ce qu'est l'Eucharistie. Tout d'abord, l'Eucharistie, souvenons-nous, c'était la première conférence, c'est le mystère de la foi. Mystère de la foi, selon cette désignation que le prêtre aujourd'hui prononce non plus à basse voix pendant la consécration, mais à haute voix et à laquelle répond l'assemblée dans l'anamnèse. L'Eucharistie est repas, en ce sens très, très profond, qu'elle nourrit de la vie même de Dieu et qu'elle est ainsi anticipation du bonheur éternel qui nous est promis. Donc l'Eucharistie repas, c'est la deuxième conférence, et là aussi, dans les rites d'offertoire ou de communion, on insiste sur l'Eucharistie comme repas, non pas comme certains pouvaient le dire dans une manière de rendre les choses très horizontales, avec perte du sens du sacré, hein, mais au contraire, dans une visée, on dirait, très théologale, les rites eucharistiques affirment, expriment ce caractère, ce but de l'Eucharistie qui est de nous nourrir de la vie même de Dieu. C'était la deuxième conférence, ou la deuxième soirée, ou le deuxième échange. Troisième soirée, nous avons envisager l'Eucharistie en tant qu'un des sacrements de la charité. Mystère de la foi, repas eucharistique et troisième soirée en tant qu'un des sacrements de la charité. Et quatrième soirée, c'est l'Eucharistie en tant qu'un des oblations. C'est le mot du chapitre 7. La participation à l'Eucharistie aboutit à notre oblation éternelle. Alors, oblation, le mot signifie offrande, et on dit aussi sacrifice. Pourquoi est-ce que le chanoine allemand privilégie le terme d'oblation? On y reviendra à la fin de la conférence. On peut dire que les conférences nous permettent d'être plus attentifs à certaines paroles de la liturgie eucharistique. La première des deux conférences qui sont au programme, mais j'insisterai comme les fois passées, à cause de la densité des textes qui empêchent de les étudier en détail, chacun d'entre eux. J'insisterai surtout sur le premier, donc sur la conférence numéro 7. Dans la conférence numéro 7, le chanoine allemand illustre ce qu'il dit par la troisième prière eucharistique lorsqu'elle affirme, elle demande: fais de nous une éternelle offrande à ta gloire. Hein. Fais de nous une éternelle offrande, on pourrait dire oblation, à ta gloire. Mais j'ai repris les paroles qui sont celles de la traduction actuelle. Fais de nous une éternelle offrande à ta gloire. Ou encore, la même prière eucharistique numéro 3, je crois que c'est dans la conférence 8, dans le Memento des défunts, la partie de la prière eucharistique consacrée aux défunts. Elle évoque le futur des défunts en disant: tous ensemble, nous serons comblés de ta gloire. Donc, l'Eucharistie fait de nous une offrande à la gloire de Dieu, elle nous comble de la gloire divine. La conférence 8 veut montrer comment l'Eucharistie ordonne toutes nos activités humaines à la contemplation. Elle nous fait ordonner l'action à la contemplation. Et pour montrer comment les paroles de la liturgie nous aident à vivre cela, c'est le rite de l'offertoire qui est la référence du chanoine allemand. Les paroles du prêtre lorsqu'il offre le pain. Tu es béni Seigneur de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Et ces paroles disent bien la manière dont le pain qui est fruit de la terre, du travail de l'homme, donc fruit de son action, devient dans l'Eucharistie le pain de la vie. Le pain dont le chanoine allemand, lorsqu'il parlait de l'Eucharistie comme repas, le pain de la vie dont le chanoine allemand, lorsqu'il nous parlait de l'Eucharistie comme repas, montrait qu'il s'agit de la vie même de Dieu qui nous est communiquée. Alors, je vais lire de façon assez suivi, la conférence 7. Ce sont des textes qui doivent être lus très lentement, comme le chanoine allemand les prononçait, sans beaucoup d'effets rhétoriques, même s'ils sont écrits dans une très belle langue, mais dans des textes denses, avec parfois quelques expressions qui sont des expressions théologiques auxquelles nous ne sommes pas nécessairement familiers. Donc, je préfère moi-même, parcourir assez lentement le texte, essayer de l'expliquer, celui de la conférence 7. Et puis, bien sûr, si vous avez des questions relatives à la conférence 8, eh bien, nous en parlerons. Et puis, je voudrais revenir sur une question qui nous a préoccupés dès la première conférence et dont j'ai dit que c'est un peu un angle mort du regard que le chanoine allemand pose sur l'Eucharistie, c'est-à-dire le rapport de l'Eucharistie à la violence. Donc, page 77, c'est le début de la conférence 7. Alors, le chanoine allemand reprend un certain nombre d'idées présentées antérieurement. En cette suite de méditation, ça nous dit le caractère méditatif et donc plutôt lent du texte. Nous considérons souvent comment le très saint sacrement de l'Eucharistie nous dispose au festin céleste. C'était la deuxième conférence. Hein. Le sacrement de l'Eucharistie nous dispose au festin céleste. Alors nous allons encore ce soir, approfondir ce qu'il faut mettre sous cette expression festin céleste et comment nous accédons à cette réalité qui ici est désignée métaphoriquement comme un festin. Déjà, nous avons eu l'occasion de reconnaître que le festin du ciel est chez les créatures l'exercice suprême de la charité. C'était le thème de la conférence la semaine dernière. Il n'y a pas de manière plus noble et plus intense d'aimer que de participer à ce festin du ciel auquel nous sommes prédestinés. Nous avons dit que nous ne serions jamais assez pénétrés de cette vérité, c'est dans le ciel seulement que nous aimerons Dieu parfaitement. C'est-à-dire la réalité du ciel, c'est l'amour même de Dieu. Hein? Et c'est dans le ciel seulement que nous aimerons Dieu parfaitement. Vouloir aimer Dieu, c'est donc surtout vouloir le ciel, puisque c'est là, c'est alors que nous pourrons enfin aimer Dieu parfaitement. Je souhaite aujourd'hui, en ce temps de Pâques, reconnaître plus clairement avec vous que le ciel, le festin des noces de l'agneau, dans le rite de communion, disons le repas des noces de l'agneau, aujourd'hui le festin des noces de l'agneau, est notre union consommée au sacrifice du Christ. Alors ici, nous avons le terme de sacrifice. Donc c'est le thème de la conférence, c'est vraiment de montrer comment ce que nous vivrons au ciel, c'est notre union consommée, totale, définitive, au sacrifice du Christ. Alors, nous nous rappelons qu'on a opposé souvent une approche de l'Eucharistie comme repas et une approche de l'Eucharistie comme sacrifice. Là, on voit que les deux sont liés dans l'esprit du chanoine allemand. C'est ce dont il veut nous convaincre. Ce repas, les noces de l'agneau, c'est l'union la plus forte au sacrifice du Christ. Alors il va bientôt, bien sûr, essayer de mieux comprendre ce dont il s'agit lorsque nous parlons de sacrifice. Et ici, le chanoine allemand, en fait, utilise comme deux synonymes oblation et sacrifice. Oblation, nous avons trouvé le mot dans le titre, et ici nous avons sacrifice. Notre union au sacrifice du Christ s'accroît surtout ici-bas, c'est l'union, hein, par le sacrement de l'Eucharistie. Donc l'idée, c'est que la participation à l'Eucharistie est une union au sacrifice du Christ et que d'Eucharistie en Eucharistie, on s'unit plus fortement au sacrifice du Christ jusqu'à l'union plénière du ciel. Cette union au sacrifice ne s'achève que par notre entrée au festin céleste. Pour avoir vraiment l'idée que le temps du sacrifice est passé lorsqu'on accède au ciel. Ce que le chanoine allemand dit, c'est que le ciel est l'amour plénier de Dieu et qu'il est de la même manière, union totale au sacrifice du Christ. Nous allons voir que notre participation à l'Eucharistie a pour aboutissement normal notre oblation éternelle dans l'éternel banquet du ciel. Comme on dit que la sainteté est l'aboutissement normal du baptême, ici on dit que normalement, si tout se passe bien, j'allais dire, hein, notre participation à l'Eucharistie a pour aboutissement l'oblation éternelle dans l'éternel banquet du ciel. Alors là, les deux notions d'oblation et de repas sont liées, hein, l'oblation dans le repas. Le ciel est l'identité parfaite du sacrifice en son terme et du banquet de divine communion. Donc, loin d'opposer les deux termes, le chanoine allemand veut montrer comment les deux réalités, sacrifice et banquet, sont liées l'une à l'autre et que finalement, elles coïncident totalement. Comprenons d'abord qu'au ciel, les bienheureux sont à Dieu, une entière offrande. Bon, des oblations, ici on a le terme d'offrande, sacrifice, oblation, offrande, les termes sont équivalents. La troisième prière eucharistique, alors j'ai déjà fait allusion à ce texte tout à l'heure, demande que de nous, restaurés par le corps et le sang du Christ, et remplis de son Esprit Saint, lui, le Christ, fasse une offrande éternelle au Père. Le texte latin, hier même, alors deuxième texte cité, vendredi de la cinquième semaine du temps pascal, c'est le moment où le chanoine prononce sa conférence, dans l'oraison de l'offertoire, la prière de l'offertoire, prononcée juste avant le chant de la préface, nous adressions cette même demande au Père, fais de nous pour toi une offrande éternelle, hein, fais de nous une éternelle offrande à ta gloire, c'est la traduction officielle aujourd'hui. Et ensuite, le chanoine allemand reprend des idées qui sont celles développées par saint Thomas d'Aquin dans la deuxième partie de la deuxième partie de la somme de théologie, lorsque saint Thomas d'Aquin traite de ce qu'est la religion et ce qu'est la sainteté. Et il reprend la définition que Thomas donne de la sainteté dans ce passage que j'ai dit de la somme de théologie. Cette stable disposition de pure et entière offrande au Père, c'est la sainteté de tous les bienheureux des saints anges et des élus de ce monde dans le ciel. La sainteté dit une disposition stable, pure et entière d'offrande au Père. Être saint, c'est donc être dans cet état d'offrande au Père, stable, pur, entier. C'est la définition, les mots mêmes de saint Thomas dans la somme de théologie. Il, c'est-à-dire les bienheureux, les anges et les élus, ils sont tous offerts pour n'être que réception de la vie divine dont le Père est la source et dont il veut les faire vivre. Ah, c'est là qu'il nous expliquait comment offrande et sacrifice sont une seule et même chose. Ils sont tous offerts, mais offerts à quoi? Offerts à Dieu, offerts à Dieu qui se donne à eux. Donc ils sont tous offerts pour recevoir de Dieu la vie même de Dieu, pour s'en nourrir. Ils sont tous offerts pour n'être que réception de la vie divine dont le Père est la source et dont il veut les faire vivre. L'introduction d'une créature intelligente, que ce soit un ange ou un être humain, dans le ciel suppose toujours chez elle que la sainteté de l'état de voie est à son terme. On n'entre pas au ciel autrement que dans cette disposition qu'on vient de dire de totale offrande à Dieu. On entre au ciel que dans cet état d'entière livraison, offrande, oblation à Dieu, qui nous vaut au retour la communication même de la vie de Dieu. S'offrir à Dieu, c'est se livrer au don qu'il veut nous faire de lui-même. Et on accède à cet état hein, que lorsque la vie, ici-bas, hein, l'état de voie, voie VOIE, c'est l'état de chemin, hein, c'est l'état de l'homme viator, de l'homme en chemin. Hein, on accède au ciel que lorsque le chemin nous a conduit à la sainteté. C'est le chemin qui nous conduit à la sainteté. Et le ciel, on peut le dire autrement, n'est rien d'autre que l'amour et la sainteté. Cette sainteté de la voie, arrivée à son terme, c'est l'élan total de charité par lequel la créature se livre à la charité de Dieu qui veut lui faire partager sa vie divine en pleine lumière. Donc, la sainteté à laquelle aboutit le chemin de notre existence terrestre, ça doit être compris comme l'élan de la charité par lequel la créature se livre à quoi? À la charité de Dieu. La charité de l'homme se livre à la charité de Dieu qui veut lui faire partager sa vie divine en pleine lumière. Et la charité de Dieu, c'est ça. c'est vouloir nous communiquer sa propre vie. Les derniers mots du Christ en croix expriment clairement cette disposition de livraison ultime qui doit toujours être atteinte. Alors, le chemin allemand évoque le Christ arrivé lui-même au terme du chemin. Alors, le Christ n'a pas progressé en sainteté parce que depuis le commencement de son existence, il est tout entier offert. Hein, mais dans toute son existence, il déploie la manifestation de ce que doit être notre sainteté aux différentes étapes de notre vie. Et les derniers mots du Christ en croix expriment clairement cette disposition de livraison ultime qui doit toujours être atteinte. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. On a vraiment une présentation très, très belle, très forte, hein, du sens le plus profond de notre existence humaine, qui est de nous conduire à l'offrande totale au Père, pour qu'il puisse lui-même se communiquer totalement à nous. À cette oblation de soi, je continue, page 79, formée par la grâce dans la volonté créée, répond immédiatement la communication de la gloire divine selon l'intensité de l'oblation d'amour. Là, vous avez les grands trait d'une théologie de la grâce. La grâce nous prépare à la gloire. La grâce divine, qui est déjà présence de Dieu dans notre cœur, provoque en retour, en réponse, notre oblation. Et finalement, l'oblation de nous-mêmes dans la gloire répond à la communication de la gloire divine. Et Dieu répond à notre oblation en proportion de l'intensité de notre amour, selon l'intensité de l'oblation d'amour. C'est-à-dire que Dieu se donne à nous autant que nous serons capables, nous nous serons rendus capables de le recevoir, de l'accueillir. Comprenons-le, c'est la communication même de la gloire divine qui met la créature bienheureuse, homme ou ange, en état d'offrande éternelle, donc dans la sainteté du ciel. C'est d'abord Dieu se communiquant en nous qui nous rend capable d'accueillir le don qu'il nous fait de lui-même. C'est la grâce tout d'abord qui nous a rendus capables de grandir en sainteté. Cette sainteté consommée, c'est l'élan total de nous-mêmes au terme de notre vie. Et la réponse, enfin, oui, la réponse de Dieu à cette offrande ultime, ce sera la communication de sa gloire. Et la communication de sa gloire va provoquer la plénitude de notre offrande, de notre oblation. La consécration à Dieu des bienheureux. C'est les mots de Jésus au chapitre 17 de Saint Jean, sa prière sacerdotale, hein, consacre-les dans ta vérité. La consécration à Dieu des bienheureux. Être consacré, c'est appartenir totalement à quelqu'un. La consécration à Dieu des bienheureux, c'est d'abord et foncièrement la consécration de leur intelligence. On a déjà trouvé à plusieurs reprises cette thèse et insistance thomiste sur le primat. C'est d'abord et foncièrement de l'intelligence. La consécration à Dieu, c'est d'abord la consécration de leur intelligence. Ils se sont offerts, disions-nous, pour être pénétrés de la gloire divine, c'est ce qu'on vient de voir. Eh bien, Dieu, qui veut leur donner communication de la toute claire perfection de son être, élève la spirituelle limpidité de leur intelligence pour qu'elle puisse le connaître directement, lui, Dieu, sans plus aucun écran de créature. La différence entre la connaissance que nous pouvons avoir à la lumière de la foi sur le chemin de l'existence terrestre et la connaissance qui nous est promise de Dieu dans le ciel, c'est que la connaissance, même la connaissance de foi, est une connaissance causée par la connaissance que nous avons des effets de Dieu, des créatures de Dieu. Au terme, Dieu se révélera à nous sans plus aucun écran de créature, c'est-à-dire il se révélera à nous non plus à travers ses œuvres, mais en lui-même. Toujours pour l'intelligence, alors là, on va continuer, hein, donc, on parle de la connaissance immédiate que nous aurons de Dieu lui-même au ciel. Toujours pour l'intelligence, vivre, c'est vivre ce qu'elle connaît dans la mesure et de la manière dont elle connaît. Alors là encore, c'est du thomisme tout pur, hein, donc une réflexion sur la vie intelligente. Et pour un être intelligent, pour l'intelligence de cet être, vivre, c'est vivre ce qu'elle connaît. C'est-à-dire que, en vertu de l'intelligence, nous vivons ce que nous connaissons. C'est-à-dire que, ben, nous devenons ce que nous connaissons. Hein. Et nous le devenons de l'intérieur de nous-mêmes. Hein. On a une conception de la connaissance qui n'est pas quelque chose de superficiel, hein, mais qui nous transforme intérieurement. Bon, on comprend très bien que connaître quelque chose, c'est s'enrichir de ce que nous connaissons. Mais c'est même, en fait, si on considère l'intelligence, justement, non pas comme, je ne sais pas, une opération qu'on peut coucher sur du papier, hein, une connaissance abstraite, mais si on considère l'intelligence comme opération vitale, hein, connaître, dans ce sens-là, c'est vivre ce qu'on connaît. Ça veut dire que si on ne vit pas ce qu'on prétend connaître, c'est qu'on ne le connaît pas vraiment, hein, aussi. Donc, qu'est-ce que la connaissance? Qu'est-ce que l'effort pour connaître l'autre, hein, ici, on a une conception très forte, très haute, très exigeante, je dirais, de l'intelligence. Quand elle a la vue directe de Dieu, elle est nourrie de Dieu même, et toute consacrée à lui, nourrie, repas, consacrée à oblation. De par cette vision, c'est de l'intérieur de Dieu, et comme Dieu voit ses créatures, que l'Esprit béatifié se connaît lui-même et les êtres créés. Je vous avais proposé, ce n'était pas les mots mêmes du chanoine allemand, mais je crois que c'était la première conférence, de comprendre que lorsque nous verrons Dieu en lui-même, alors nous verrons avec ses propres yeux, nous aimerons avec son propre cœur, hein. Nous vivrons de sa propre vie. C'est de l'intérieur de Dieu et comme Dieu voit ses créatures que l'Esprit béatifié se connaît lui-même et les êtres créés. Comme lorsque on connaît intimement une personne, on en arrive à partager ses sentiments, partager sa vision des choses. Alors, ce qui est déjà vrai pour la connaissance entre deux humains le sera d'une façon bien plus forte lorsque nous parlons de la connaissance de Dieu lui-même, hein, qui est plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes, naturellement. Il est donc l'esprit bienheureux tout occupé à vivre ce qu'est Dieu. Il est tout occupé, ça c'est l'offrande, le sacrifice, à vivre ce qu'est Dieu, ça c'est le repas. La volonté des élus se complète en cette consécration de leur intelligence, les choses arrivent par l'intelligence, à laquelle Dieu fait vivre ce qu'est sa vie divine. Ainsi, la volonté, parce qu'elle est bien sûr pas exclue, hein, il ne faut pas les séparer. On affirme le primat de l'intelligence, mais son lien nécessaire avec la volonté. La volonté, puissance d'aimer le bien, montrée par l'intelligence, pour aimer, il faut connaître, et livrée de tout son élan à l'amour de Dieu, bien infini, vu sans ombre, en toute sa force d'attrait. Il est vu en toute sa force d'attrait, et la réponse de celui à qui accorder la vision c'est d'aimer celui qui se donne ainsi à voir. Cette adhésion entière de la volonté au bien divin clairement vu est sa propre consécration, la sainteté stable du vouloir de l'amour. Donc, si vous voulez, il y a un primat de l'intelligence qui provoque l'amour. L'intelligence, comprenons que c'est ce qui nous introduit au repas du ciel, et la volonté, la disposition de la volonté, c'est l'offrande, le sacrifice. Hein? Donc ici, de façon très originale, je crois, mais aussi très, très lumineuse et très forte, le chanoine allemand montre comment repas et sacrifice sont liés, de même que et dans la mesure même où intelligence et volonté sont liées l'une à l'autre et découlent l'une de l'autre. Enfin, ce n'est pas tout à fait juste de dire que la volonté découle de l'intelligence, mais ce qu'est la volonté, l'état de la volonté plutôt découle de l'état de l'intelligence. Comprenons que c'est là, dans la volonté des élus, l'oblation parfaite de leur être à la charité qui est Dieu. Car s'ils aiment Dieu comme bien plaigné qui les rassasie tous éternellement, ainsi que le dit la troisième prière eucharistique, ut simul gloria tua pereniter satiemur, hein, afin que nous soyons rassasiés de ta gloire, ou nous serons comblés de ta gloire, plutôt, hein, c'est le memento des défunts de la troisième prière eucharistique, tous ensemble, nous serons comblés de ta gloire. C'est la traduction actuelle, hein, simul tous ensemble. Tous ensemble, nous serons comblés de ta gloire. Hein. Ce n'est donc si ils sont ainsi rassasiés de la gloire, Eucharistie comme repas, ce n'est pas surtout pour leur propre satisfaction, mais parce qu'ils reconnaissent et aiment comme suprême valeur la bonté de Dieu qui les a créés pour les remplir de sa gloire. Dans le cœur des élus, ce qui importe surtout, c'est la gloire même de Dieu, plus que leur propre satisfaction. Alors ça, c'est intéressant aussi parce que vous avez d'abord la réalité vue et aimée, et dans un second temps, la satisfaction qu'on en tire. Alors un peu plus loin, nous allons voir que là aussi, de façon originale et je trouve lumineuse, le chanoine allemand va dire, ben, dans l'Eucharistie, nous recevons le pain et le vin, et le pain, c'est le corps même du Christ, le vin, c'est le sang, mais le vin est aussi ce qui provoque la joie. Hein. Donc, le pain et le vin sont l'image, le pain, ben, de la vision qui nous est donnée, et le vin, de la joie qui découle de cette vision. La créature intelligente atteint, à la fin de la page 80, sa bienheureuse perfection surnaturelle. Hein, ce n'est pas du fait de nos capacités naturelles, mais c'est quelque chose qui vient nous porter au-delà des limites de notre nature, ce que nous appelons surnaturel. Ça ne veut pas dire bizarre ou extraordinaire, hein, une sorte d'exceptionnel, mais ça veut dire que le don de la grâce et de la foi nous transporte dans un état supérieur à celui de notre seule nature. La créature intelligente atteint sa bienheureuse perfection surnaturelle, la fin pour laquelle elle a été créée et élevée par la grâce. Créée, c'est la nature, élevée, c'est l'état surnaturel par la grâce, quand elle est ainsi immuablement offerte à l'ultime accomplissement de l'adoption divine. C'est une autre façon de dire que Dieu se communique sa propre vie, hein, aux bienheureux, hein, il les adopte. Hein, et il n'y a rien de, comment dire, d'artificiel ou de conventionnel, ou de, c'est pas une adoption purement juridique, hein, c'est une adoption qui fait de nous ses enfants, au sens réel du terme. Son intelligence vivant en toute clarté avec le Fils éternel, la vérité du Père, sa volonté, ça, c'est le repas, ça, c'est, on pourrait dire, à l'essence même du pain eucharistique, sa volonté étant tout accordée à l'esprit d'amour en lequel sont unis le Père et le Fils, ça, c'est le sacrifice, ça, ce sera l'image même, une des significations du sang. L'acte par lequel l'intelligence de l'élu est tout appliquée à vivre la divine lumière, acte qui entraîne celui de la volonté tout accordée à vivre l'amour et la joie de Dieu, hein, toujours les deux actes de l'intelligence et de la volonté qui se suivent, c'est cela même qui est l'essentielle et parfaite louange de Dieu par la créature. L'intelligence rassasiée par l'être même de Dieu, la volonté captivée par ce qu'est Dieu et y trouvant toute sa joie, c'est ça, hein, cet être transformé en Dieu, qui est la parfaite louange de Dieu par la créature. De cette vue de Dieu qui produit le repos d'amour et la joie pleine, hein, on n'a plus rien à chercher de manière inquiète lorsqu'on possède Dieu lui-même, résulte encore dans les capacités d'expérience et d'expression spirituelle qu'ont les esprits créés, ce qu'on nomme les cantiques du ciel, la louange, les cantiques dont parle l'Apocalypse, les apocalypses bibliques, hein, le livre même de l'Apocalypse, ou ces textes apocalyptiques qu'on trouve chez le prophète Isaïe, par exemple. On chante au ciel. Et quand on dit on chante au ciel, c'est une manière imagée d'exprimer la joie des élus et l'expression même que trouvera cette joie dans le ciel. Lors de la résurrection des corps, en eux aussi, dans les corps, résultera une entière allégresse de ceux qui sont animés par des âmes vivant la vie de Dieu, mais tout cela est la suite de la béatitude de l'intelligence ouverte à la vue de Dieu. C'est tout notre corps, tout notre être, pardon, intelligence, volonté, corps, qui sera rendu bienheureux, mais tout cela est la suite de la béatitude de l'intelligence ouverte à la vue de Dieu. Toujours primat de l'intelligence. Parce qu'au fond, c'est le primat de l'intelligence dit le primat de l'autre. C'est le fait que l'autre est ce qu'il est et que nous le connaissions comme étant ce qu'il est qui nous rend heureux. Finalement, le primat de l'intelligence, ça signifie ça, c'est c'est pas dans ma satisfaction intérieure, et c'est même pas dans l'élan qui me porte vers l'autre que je trouve ma joie, mais en définitive, je la trouve en l'autre lui-même, dans le fait qu'il est ce qu'il est. Hein. Et c'est donc... ce primat d'intelligence, c'est une façon donc de souligner, je dirais, ce qu'on appellerait peut-être aujourd'hui le principe de l'altérité, hein. C'est l'autre qui me rend heureux. Et c'est pour ça que, on tient si fort le primat d'intelligence. Ou c'est parce qu'on tient si fort le primat de l'intelligence que c'est vraiment c'est l'autre hein, qui me rend heureux. L'intelligence, c'est l'ouverture à l'autre. C'est un théologien jésuite, le père Rousseau, qui disait l'intelligence, c'est la capacité de l'autre. L'intelligence, c'est la capacité de l'autre. Il faut le comprendre comme ça, parce que bien sûr, on peut user de son intelligence autrement que comme ça, hein, mais foncièrement, elle est ça, elle est cela, la capacité de l'autre. Et donc, elle est faite pour s'accomplir dans l'amour et pour conduire l'amour à son plein épanouissement. C'est bien ainsi, par le même acte, la vue de Dieu face à face, que les créatures béatifiées sont au banquet de Dieu, première idée, et sont toutes offertes à Dieu. Et on approfondit toujours la même idée, hein, de la relation entre l'Eucharistie repas et l'Eucharistie sacrifice. Les bienheureux sont au banquet de Dieu parce qu'ils sont nourris du Dieu vivant et abreuvés du bonheur éternel que les personnes divines ont dans leur relation mutuelle. C'est la phrase à partir de laquelle je faisais mon petit développement sur corps et sang. Hein. Vous voyez, ils sont nourris du Dieu vivant, comme on est nourri par le pain, et abreuvé du bonheur éternel que les personnes divines, comme on est abreuvé par le sang. Les bienheureux vivants du bonheur de la Trinité et les personnes divines se complaisent à les faire communier à leur vie. C'est le bonheur même de Dieu de nous faire communier à sa propre vie. On revient à l'image qu'on a déjà vue dans la deuxième séance, nos repas familiaux et nos festins de la terre, où prenant ensemble la nourriture des corps, ceux qui la procurent et ceux qui la reçoivent se réjouissent de vivre d'une même vie. Sont les lointains symboles de ce festin du ciel où la Trinité et ceux qu'elle rassasie de sa gloire vivent de la même vie divine. Chacun de nos repas familiaux est symbole de ce repas éternel auquel nous sommes destinés. Alors, il y a des repas de famille qui sont plutôt ennuyeux, mais là, on envisage les choses sous leur meilleur jour. Là est le parfait convivium, hein, le mot latin signifie le vivre ensemble, de la pleine vie éternelle. Convivium, nous n'avons plus dans le français moderne l'équivalent de ce mot si fort, qui exprime simplement l'acte par lequel on vit ensemble. La vieille langue française avait le mot convie, que j'ignorais jusqu'ici. Aujourd'hui, nous devons user de mots qui ajoutent des nuances secondaires, comme repas, banquet, festin, repas, comme le grec deipnon indique proprement qu'on reprend à moment fixe la nourriture dont on a besoin. Banquet marque que l'on est rassemblé autour de la même table. Festin exprime la joie commune. Dans le langage sacré, nous avons encore le mot scène, qui signifie le repas du soir. Tout cela dit moins purement, hein, que ce soit repas, banquet, festin, scène, tout cela dit moins purement que convivium, l'acte par lequel les convives vivent de la même vie. Précisément parce que d'une signification plus pure, convivium dit mieux ce qu'est le ciel, où les personnes de la Trinité et des élus vivent de la même vie. Sachons bien du moins que nous sommes appelés à être les convives de la Trinité, que nous sommes les conviés du Père des cieux. La réception de la vie de Dieu est de la part de la créature une entière oblation d'elle-même, le sacrifice. Et alors, le chanoine allemand rappelle une distinction qu'on trouve, sinon chez Thomas, du moins la tradition thomiste, entre liberté de choix et puis liberté comme offrande de soi. Donc au ciel, les bienheureux reçoivent la vie de Dieu et de la part de la créature. Cela correspond à une entière oblation d'elle-même, on l'avait vu. Dieu se donnant, la créature est captivée par lui et elle s'offre entièrement à lui. Alors il ne s'agit plus de choisir sa voie, il n'y a plus de choix possible lorsqu'on accède à la vision de Dieu. Fût-ce même d'obéir à l'appel, l'intelligence créée ouverte par Dieu est vitalement pénétrée de ce que Dieu est, la puissance d'aimer en est captivée, tout autant que Dieu se fait voir. La liberté de choix n'est plus que dans les expressions de la liesse pour la communication de la joie de l'élu aux autres membres du corps mystique. Donc, il n'y a pas, on ne choisit pas d'aimer Dieu au ciel, hein, on est entièrement captivé par lui. Il peut peut-être y avoir, c'est une idée que je découvre ici, une certaine liberté dans la liberté, une certaine liberté, pardon, dans la communication qu'un élu fait de sa joie à d'autres élus. Cette oblation à la vie de Dieu est certes tout l'opposé de la passivité, puisque c'est la communion à l'acte pur qui est Dieu. On n'est jamais autant actif que dans cette oblation de nous-mêmes répondant à la communication que Dieu fait de lui-même. C'est Dieu même qui met alors l'esprit créé en acte de communion en sa vie, et toutes les activités du cheminement où nous vivons dans l'inévidence de la foi, et donc dans la nécessité de choisir encore et toujours, hein, toutes les activités du cheminement vont cesser. La liberté, elle s'accomplit parfaitement dans l'union à Dieu, mais il n'y a plus de choix possible. La condition définitive de livraison entière de soi-même à la vie de Dieu est bien ce qui explique A. Le refus de cette vie par l'orgueil des démons et par l'orgueil plus ou moins conscient des hommes qui préfèrent vivre pour eux-mêmes. Alors, c'est la deuxième fois, je crois, que le chanoine allemand parle et de l'orgueil et du démon, les deux vont ensemble, et il explique la réalité du refus de la grâce par l'orgueil, c'est-à-dire par le refus de se livrer à Dieu, de s'abandonner à Dieu. Plutôt que de s'abandonner à Dieu, donc de dépendre de lui, les hommes, après le diable lui-même, préfèrent vivre pour eux-mêmes. Ainsi, le choix de vivre pour soi et non pour Dieu est le fond du péché est ce qui nous prive de recevoir la grâce et donc finalement la vision. Nous avons pour nous disposer à l'oblation totale de notre vie l'union qui nous est proposée au sacrifice du Christ. Alors là, c'est un autre thème qui s'introduit, c'est la médiation du Christ, le rôle que le Christ vient jouer dans notre accomplissement, dans notre sainteté. Hein, pour choisir de s'abandonner à Dieu, le moyen qui nous est donné, c'est de nous unir au sacrifice premier du Christ lui-même. C'est en nous unissant au Christ que nous recevons la capacité de nous livrer nous-mêmes à Dieu. L'intelligence humaine du Christ était dès l'incarnation dans l'acte de voir la Trinité, mais le retentissement de cette vision en toute la nature humaine du Sauveur fut suspendu jusqu'à l'achèvement de sa mission rédemptrice, afin qu'il pût nous instruire et nous donner l'exemple de ce que doit être notre cheminement en vivant du mode de vie terrestre, et plus encore afin qu'il pût, en abandonnant volontairement cette vie terrestre, mériter pour lui la glorification totale de la nature humaine et pour nous l'oblation de nous-mêmes à la grâce et à la gloire. Donc ici, vous avez toute la Christologie Saint Thomas en 10 lignes, que je résume en 5 minutes. Là encore, c'est une conception des choses, ici du salut, qui est commandée par le primat que l'on accorde à l'intelligence. Ce qui est au fond de la vie du Christ, c'est le regard qu'il pose sur Dieu. Et selon saint Thomas, dès l'incarnation, dans le sein de la Vierge Marie, le Christ est dans l'acte de voir la Trinité. Il y a dans le Christ un contact immédiat de son intelligence avec la réalité même de Dieu. Alors on peut dire d'une certaine manière que c'est d'ailleurs vrai de tout humain, mais dans le Christ, cela est vécu avec une plénitude exceptionnelle. Bon, cette vision qui habite l'intelligence du Christ, cette vision qu'a le Christ en son intelligence de la réalité même de Dieu. Elle ne produit pas tous les effets que normalement, ordinairement, elle devrait produire, selon Thomas. Il y a comme une suspension des effets de ce regard que le Christ porte sur Dieu sur son être. Donc il vit dans cet état où il voit Dieu, ce qui est nécessaire pour qu'il accomplisse la mission qui est la sienne, et toute sa vie intérieure découle de ce regard qu'il porte sur Dieu, mais ce regard qu'il porte sur Dieu ne porte pas immédiatement, c'est un miracle hein, pour Thomas, ne, ça devrait se passer comme ça, mais ça ne se passe pas de fait comme ça, cette connaissance intime que Jésus a de l'être même de Dieu ne rejaillit pas en béatitude dans son âme, dans son corps, comme c'est le cas des bienheureux. Il refoule d'une certaine manière cette joie qui devrait l'envahir pour partager pleinement notre condition, pour devenir notre modèle et en définitive le renoncement qu'il fait, l'abandon volontaire de sa vie terrestre nous obtient, nous mérite comme l'arbre porte son fruit, hein. La glorification totale de sa nature humaine, celle qu'il a suspendue tout au long de sa vie terrestre, est pour nous l'oblation de nous-mêmes à la grâce et à la gloire, et notre consommation donc dans la béatitude céleste. Dans l'Eucharistie, c'est de sa chair immolée, de son sang versé, donc de sa sainte humanité. Alors, le mot sainte humanité est vraiment un terme consacré quand on parle du Christ, en ce sens que l'humanité est assumée par la personne du Verbe, hein, donc elle est sainte, elle est sanctifiée du fait même de son union, de l'union hypostatique, comme on dit en théologie, c'est-à-dire de l'union de la nature à la personne même du Verbe. C'est dans l'Eucharistie, c'est de sa chair immolée, de son sang versé, donc de sa sainte humanité livrée à la mort de la vie terrestre, que le Sauveur nous alimente et nous abreuve. Sa nature humaine est maintenant à jamais toute offerte à la vie de la gloire. Jésus est pour l'éternité au terme de son sacrifice, dans l'acte consommé d'oblation immuable de son humanité à la seule vie que le Père lui communique en la divinité. Ainsi que le chante une des nouvelles préfaces pascales, toujours ce souci que le chanoine allemand a de reproduire les textes de la liturgie du Concile, le Christ ne cesse de s'offrir pour nous, immolé. On comprend bien pourquoi, hein, parce que il ne cesse de s'offrir parce qu'il est dans cet état stable et permanent d'offrande de tout lui-même à Dieu, à son Père. Il ne cesse de s'offrir pour nous, immolé. Il ne meurt plus de nouveau, mais il vit comme ayant été mis à mort, c'est-à-dire comme ayant ici, selon l'expression du chanoine allemand, enfin, la compréhension, pardon, du chanoine allemand, il a renoncé à sa vie terrestre pour accéder à la vie de Dieu, pour s'abandonner à Dieu, et de cette manière, il nous obtient l'accès à la vie divine, à la vie céleste. Sachons bien et sachons affirmer que nous allons nous unir au sacrifice du Christ dans l'Eucharistie pour mourir à nous-mêmes. Mais qu'est-ce que mourir avec le Christ? C'est certes ici-bas mourir à toute activité désordonnée, c'est-à-dire à toute activité qui ne serait pas orientée vers Dieu, vers ce bonheur qu'il veut de nous communiquer sa propre vie. Au terme, mourir au sens le plus fort du mot, dans l'amour de Dieu qui veut nous remplir de sa seule vie. C'est un thème mystique, hein, mourir dans l'embrassement de Dieu, hein, c'est ce qu'on dit de Moïse dans le livre du Deutéronome, je crois que c'est un livre du Deutéronome, hein. Il meurt dans l'embrassement de Dieu, c'est-à-dire dans cet abandon entier de soi et donc de sa vie terrestre à l'amour de Dieu, hein, qui veut nous élever à sa propre vie. Qu'à chacune de nos communions en sacrifice eucharistique, à chacune de nos adorations devant le sacrement du Christ mort et glorieux, nous croissions en la conformation à son état de vivante hostie, nous devenions davantage en lui une même vivante hostie, in Christo hostia viva. C'est une expression de la quatrième pré-eucharistique. Alors, je ne vois pas très bien dans la traduction française que nous devenions dans le Christ une vivante offrande à ta gloire, je pense que c'est ça. Alors, renonçant à nous-mêmes, aux recherches de nous, nous serons libres. Alors, vous voyez, c'est du point de vue du salut, c'est cela, il faut renoncer à soi, à la recherche de soi, au sens où il faut s'abandonner au Père pour qu'il fasse de nous ce qu'il veut faire de nous, Nous serons libres pour goûter dans la contemplation les mystères de Dieu en recevant les lumières et l'émotion de l'Esprit du Fils, ce qui est un avant-goût sur la terre du festin éternel. C'est la fin du texte et vous voyez que on va s'arrêter là pour avoir un moment d'échange.
Merci frère Gilles, parce que le texte était suffisamment délicat et difficile pour que votre éclairage soit important pour nous. Et tous ceux qui veulent réagir, poser des questions, sont maintenant invités à se manifester. Frère Gilles est à votre disposition.
Tout offert.
Tout au fait. Parlez fort alors.
Juste une remarque, une question. Les derniers mots de la conclusion. Alors, renonçant à nous-mêmes, c'est là le sacrifice de notre personne à Dieu. Renoncer à soi-même, et c'est participer au sacrifice de Christ.
Oui. Oui, Marie-France.
Oui, moi je rebondis sur parce que c'était la dernière phrase de la conférence, enfin, de ce que vous avez dit qui m'interrogeait. Quelle différence entre ce renoncement à la recherche de soi et la connaissance de soi ou le domaine du discernement par rapport à soi ou moi, est-ce que, je ne sais pas si ma question est claire. Comment est-ce que, en fait, on peut comprendre cette notion de renoncement à soi? Est-ce que c'est moral, principalement, ou est-ce que c'est de l'ordre de la connaissance de soi?
Alors, c'est
Merci.
moral, ici.
D'accord.
Il s'agit de renoncer à soi. Mais votre remarque est très fine, hein, je trouve, en introduisant. Parce que vous me dites, mais il faut renoncer à soi, mais est-ce que d'une certaine manière, il ne faut pas essayer de se connaître soi-même, comme nous y invite la tradition? Et se connaître soi-même, est-ce que ce n'est pas soi-même se rechercher soi-même? Et donc, pourquoi
Oui.
donner
Le
cette.
discernement.
Oui, le discernement? Alors, s'il y a discernement, il y a quand même recherche de soi, c'est de se
C'est
connaître
ça.
de soi-même.
C'est ça.
Alors, je vais encore dire quelques mots, mais je vous ai déjà annoncé. Je souscris à tout ce que dit le chanoine allemand, mais ça ne me satisfait pas. Je vais encore revenir là-dessus, parce que je
D'accord.
trouve que, comme je disais la semaine dernière, je vais déjà un peu commencer à m'expliquer là-dessus, que le fond du péché, ce n'est pas la complaisance dans les créatures. À mon sens. Pourquoi? Parce que finalement, nous nous complaisons dans les créatures. C'est la volonté même de Dieu que nous prenions notre joie dans ces repas familiaux dont il parle, etc. Donc, c'est donc pas le fond du péché. Alors, le chanoine allemand dit exactement que le fond du péché, c'est l'orgueil, c'est-à-dire finalement, c'est vivre pour soi. Mais là encore, là encore, on vit pour être heureux. Alors, est-ce que vivre pour soi est le fond du péché? Je crois qu'il y a quelque chose là qui ne me satisfait pas. Je
Ah,
pense
d'accord.
bien que pour moi, tout ce qui est dit là est très fondamental, mais il y a quelque chose, je dirais, qui n'est pas vu, il y a comme un point aveugle. Et ça, je l'ai dit, donc c'est vous qui m'avez aidé à le formuler dans votre première question. Pourquoi est-ce que Jésus a tant souffert? En lisant le texte du chanoine allemand, je ne crois pas qu'on nous explique pourquoi Jésus a tant souffert. Alors, le point aveugle du texte, et c'est une question très profonde, hein, de ce texte magnifique, par ailleurs lumineux, qui nous apprend, original, qui nous apprend beaucoup de choses. Mais le point aveugle, c'est la violence. C'est-à-dire le Christ meurt comme il meurt parce que nous lui faisons violence. Et pourquoi est-ce que nous lui faisons violence? On peut répondre, c'est parce que justement, on veut vivre pour soi, mais pas pour Dieu. Mais, c'est vrai, mais, enfin, c'est déjà les expressions que je vous avais proposées, c'est la violence, c'est pas, dans son fond, vivre pour soi et pas vivre pour les autres. La violence, dans son fond, c'est s'affirmer soi-même dans la négation de l'autre. Il y a quelque chose de la force de la violence, si, oui, qui n'est pas présent dans le texte. C'est pas seulement être violent, c'est m'affirmer dans la négation de l'autre. Négation qui est soit haine, destruction, soit indifférence, et de façon niée, hein. Soit je m'attaque, soit je fais comme si l'autre n'existait pas, quoi. C'est m'affirmer moi-même dans la négation de l'autre. Et c'est ça que le Christ vient briser en nous. Ce péché que. Je crois que l'orgueil, c'est ça. C'est pas s'aimer soi-même. Alors on peut dire, bon, bien sûr, quand on dit on s'aimait soi-même plus que l'autre, mais c'est plus que ça. C'est pas s'aimer soi-même plus que l'autre, c'est s'aimer soi-même contre l'autre. C'est s'affirmer dans l'exclusion de l'autre. Et ça, c'est tellement nous. C'est tellement profond en nous. Il y a quelque chose on dit quelque chose alors du péché originel là-dedans. C'est tellement nous, personnellement et collectivement. Je vis, je me pose dans la négation de l'autre. C'est pas je me distingue de l'autre, c'est je vis en. Et c'est ça que Jésus vient briser. Et pourquoi est-ce que c'est tellement douloureux? D'abord parce que nous ne l'acceptons pas, parce que nous n'arrivons plus à nous affirmer autrement que en niant l'autre. Et suprêmement, c'est ça le drame des pharisiens. Enfin, j'ai déjà dit, dans l'évangile, c'est quand même tellement important. Le pharisien vit, il jouit de sa propre sainteté, et il est très heureux que l'autre soit pécheur. On est quand même au cœur de l'évangile, hein. Jésus nous dit ça. Jésus dit, le pharisien, c'est celui qui ne veut pas du tout que le pécheur soit sauvé, puisque c'est le pécheur qui lui donne la satisfaction d'être saint lui-même. Et c'est ça que Jésus dénonce. Mais Jésus le dénonce jusqu'au bout. C'est-à-dire que, pour dire, bon, voilà, très bien, il y a un frère qui avait un jour fait cette prédication. Je m'éloigne un peu du texte du chanoine allemand, mais je pense que c'est moins important. Mais c'était, vous savez, la parabole du pharisien et du publicain, hein, qui va, voilà. Et puis, alors, le frère imaginait les paroles du publicain, hein, revenant, hein. Ah, Seigneur, moi, je suis très content parce que je ne suis pas comme ce mauvais pharisien orgueilleux. Moi, je suis humble, etc. C'est un effet très comique où on voyait le risque de renverser, hein, c'est-à-dire le publicain justifié devient très très fier de son humilité et très très fier de ce que le pharisien. Non, c'est pas ce que fait le Christ. Enfin, il dépasse cela. Ce qui veut dire qu'il attend toujours le pécheur. Ça veut dire que le Christ, il espère pour tous jusqu'à la fin, jusqu'à la mort de la croix. Il a ses bras largement étendus et nous y sommes tous accueillis. Et c'est ça l'évangile. Alors là, et ça, quand on a compris ça, quand on a compris la force de cet amour dans la forme concrète qu'il prend, tout ce que dit le chanoine allemand trouve une force extraordinaire. Parce que c'est cet amour-là, cet amour qui est cet amour qui pardonne, qui attend toujours. C'est tellement fort, tellement. Il n'y a rien de plus grand et ça mérite qu'on lui donne tout. Alors, tout ce que dit Chanoine allemand retrouve là sa force et sa vie. Mais, alors il faudrait voir pourquoi, hein, mais je veux dire, c'est une objection qu'on fait souvent au thomisme et au point où j'en suis, je la partage, même si c'est de ne pas rendre compte de l'énigme et du scandale du mal. Parce qu'on pense le mal uniquement comme un défaut d'être, cette perspective ontologique. Alors, il est cela, Il est ce défaut d'être. Donc, c'est la privation d'un bien dû, comme disait saint Augustin, repris par Thomas. D'accord, il est ce défaut ontologique, mais il est plus que cela. Et c'est l'envers du mystère de notre liberté. Et alors, on pourrait conduire, enfin, même dans ce qui est dit de la liberté, voyez, la liberté. Oui, il n'y a plus de liberté de choix dans le ciel, mais enfin, la liberté de l'offrande dans le ciel, elle est quand même le fruit de cette liberté de choix, donc elle reste quand même dans le prolongement même de notre choix. Et le choix, c'est là de, je dirais, de ne pas vivre sans l'autre, on pourrait dire des choses comme ça, le contraire de cette affirmation de soi dans la négation de l'autre. C'est l'ouverture à l'autre et vécu dans la mutualité de l'amour. Voilà. Donc, vous voyez, je pense que le chanoine allemand a tellement le désir que nous ne tombions pas dans le piège de ce qu'il appelle l'humanisme, c'est-à-dire réduire la charité au service de l'homme, alors que la charité, elle est d'abord amour de Dieu. Il a tellement le désir que il y a quelque chose, à mon sens, dont il ne rend pas compte. Or, qu'est-ce qui nous donne accès à la connaissance de Dieu dans la foi et qui va faire notre joie au ciel? C'est le pardon de Dieu. Parce que, étant donné ce que nous sommes, c'est dans le pardon de Dieu que nous percevons quelque chose de l'infinité, de l'immensité de son amour. Et c'est ça qui, vous voyez, c'est pour enlever notre conviction. Si vous dites aux gens, ben, mais est-ce que l'on l'a pas dit beaucoup au risque parfois de manipuler et d'abuser, hein? Voilà, ce à quoi nous vous invitons, c'est de vous détacher du créé. Ça, dans certaines spiritualités peut-être non chrétiennes, on dira ça, mais se détacher du créé, oui, en ce sens que il faut nous attacher à Dieu et à Dieu seul, mais Dieu qui est amour miséricordieux, c'est à ce Dieu-là que nous nous attachons, et c'est lui qui mérite notre adhésion totale. Et c'est lui qui mérite qu'on quitte tout, comme le dit Jésus dans l'Évangile, pour le suivre. Mais c'est lui tel qu'il se révèle à nous, il ne peut pas se révéler à nous autrement, parce que nous sommes pécheurs, que dans son amour miséricordieux, un amour qui va jusqu'à se livrer entièrement aux pécheurs que nous sommes, à s'exposer donc à chacun de nos coups. Et c'est là que le mystère de la croix s'éclaire, et pas autrement, voilà. Donc, je pense que la question que vous posiez à l'origine, je pense, c'est. Et donc.
Qui pour moi est parmi les opinions.
Ah, mais ça, mais enfin, oui, dites,
Non,
enfin.
mais exact. La question de la violence, elle n'est pas résolue ni dans votre explication, je suis désolée de vous le dire, ni dans le texte, mais je le dis comme ça parce qu'il me semble que tout ça, ce sont toujours des mots qui, ce sont des mots qui nous atteignent. Mais si je dis en surface, c'est parce que ça reste sur le derme. Et même si ça nous rentre dans le cœur, on est faim, on n'en meurt pas. On n'en meurt pas. Enfin, c'est comme quelqu'un qui vous dit, j'ai de l'empathie. J'ai de l'empathie, c'est très beau d'avoir de l'empathie, mais vous ne mourrez pas à la place de la personne qui meurt.
Parfois, c'est pas jusque-là.
Pardon?
Parfois, c'est pas jusque-là. Je pense que là, je pense qu'on peut souffrir de la souffrance d'un être aimé plus encore que la souffrance qu'il porte, enfin, la souffrance physique. Mais je pense que l'amour peut aller jusqu'à vraiment prendre sur soi la souffrance de l'être aimé.
Ici.
Mais enfin, moi, je pense que ce que vous dites, moi, j'ai une question, hein, parce que je pense que ça nous fait entrer dans
Oui, ça me
une
fait
sphère de
réfléchir.
discussion.
Hein. Je vois, j'accompagne mes parents dans leur mort. Je n'avais pas le sentiment. Je vivais un déchirement, certes, mais je n'avais pas le enfin, j'avais l'impression qu'il y avait autre chose que ce que je pouvais vivre.
Mais je pense que c'est pas le dernier mot. Enfin, bon, je sais pas. D'accord, mais très bien. On entend en tout cas ce que vous dites et je retiens.
Seul le Christ peut
Certainement.
faire ce que tu dis, quoi. Oui.
Mais
Seul lui
exactement.
peut porter, ben, le
Voilà.
Christ, ce que dit arrivé,
Oui.
porte les péchés de tout.
Et voilà. Mais ça, je pense que c'est la force d'appel à la parce qu'on comprend beaucoup mieux à partir de la considération de ce que vous dites, c'est-à-dire de la compassion, hein, jusqu'où est-ce qu'elle peut aller. Et quand on se dit, mais seul le Christ peut, ben, c'est ce que nous dit la foi.
Non, c'est
Hein?
ça.
Mais c'est là encore, enfin, je ne sais pas si je réponds pas à votre question en sens où je ne sais pas, je dissiperai le mystère, l'énigme, et tout deviendrait clair comme de l'eau de roche. Ça devient vraiment mystérieux et pas du tout absurde. Hein? C'est que
Non.
quand on dit, voilà, seul le Christ peut, et nous entrons dans son offrande, nous pouvons entrer dans cette offrande dont il s'agit, et donc dans ce mystère de compassion, que dans la mesure où nous nous unissons à lui, et jamais comme lui
Voilà.
l'a fait. Il est le seul rédempteur, il est le seul sauveur. Mais nous pouvons entrer dans une certaine mesure dans l'amour qui est le sien. Hein. Mais là aussi, enfin voilà, il y a toujours ce mystère de la grâce qui nous prévient et qui nous dépasse toujours, quoi. Donc je pense que aussi votre remarque et la difficulté que vous mettez en lumière, elle nous fait comprendre quelque chose, oui, de la nécessité d'avoir un sauveur.
Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient intervenir, en particulier les personnes à distance ou dans les autres personnes de la salle? Est-ce qu'il y a des questions, des interventions, des compléments? Tout ça est très, très fort, très puissant et nous laisse par moments un peu sans voix, mais il ne
Oui.
faut pas hésiter à intervenir.
Marie-Michel.
Marie-Michel?
Oui, je voulais savoir, est-ce que saint Thomas explique quelque part pourquoi le Christ a choisi cette mort et pourquoi il a choisi de souffrir autant pour nous? Donc, il donne des raisons, il me semble.
Oui, il donne des raisons, oui. Je dirais que saint Thomas, quand il explique les souffrances du Christ, comment dire, enfin, il dit un peu tout, il dit tout ce que dit le chanoine allemand, il parle aussi de, enfin, mais c'est plutôt toujours dans cette perspective très ontologique où la question de la violence des hommes et de leurs péchés n'est pas mis en avant. C'est-à-dire que le péché est toujours de fait d'abord défini comme le fait de s'attacher aux créatures. Je pense que j'aurais. Alors il faudrait lire les textes, hein, relire les textes. Enfin, je les ai lus, mais la perspective de saint Thomas, il faudrait là aussi réfléchir à la raison. Hein,
Mais est-ce que c'est le fait de s'attacher aux créatures? C'est pas mauvais de s'attacher aux créatures quand on est. Mais c'est le fait de ne s'attacher qu'aux créatures, enfin, de se contenter du monde créé et de pas se tourner vers Dieu.
Oui.
Mais moi, j'ai pas l'impression que le chanoine allemand considère que le péché principal soit la complaisance dans le créé. Il veut dire la complaisance qui se contente du créé. Enfin, il me semble.
Oui, alors
Et quand vous parlez de saint François d'Assise, il se complaît dans le créé, mais il le rapporte à Dieu. Il le considère en tant que création et en tant que louange de Dieu.
Alors,
Donc, bon.
exactement, Jean-Michel, le chanoine allemand dit que le péché, c'est l'orgueil, et l'orgueil, c'est vivre pour soi. Et ce que j'ai dit, c'est ça qu'il dit selon l'amour.
Alors, l'orgueil, c'est vivre pour soi ou
Oui.
c'est refuser de dépendre d'un autre? Mais on.
Oui, c'est un peu. Ici, ça signifie refuser de dépendre d'un autre. Oui. Vivre pour soi, c'est. Mais le mot du chanoine, l'expression qu'on trouve dans le texte, c'est vivre pour soi. Hein. Mais et je pense qu'il faudrait effectivement. Enfin, mais bon, il n'avait pas tout dit dans le texte. Hein, finalement, s'il a une perspective, il a pas. Mais bon, je pense que je préférerais. Mais c'est pas ce que dit le chanoine allemand, hein, dans le texte même. Hein, mais il dirait pas le contraire. Je suis d'accord. C'est vivre pour soi. Et au fond, si on vivre pour soi, ça signifie. Mais il ne le dit pas vraiment. Ça signifie effectivement refuser de dépendre d'un autre. Là, je suis déjà beaucoup plus. C'est le refus de dépendre d'un autre. Mais je dirais. Le refus de dépendre d'un autre, il arrive que ce soit bien aussi. Moi, je préférerais dire encore, ça me semble encore plus clair, c'est parce qu'on s'affirme dans la négation de l'autre et c'est la raison pour laquelle évidemment, on ne veut pas dépendre de lui. Je ne suis pas sûr que le. Voilà. Mais en tout cas, le chanoine allemand dit dans ce texte-là, il parle de complaisance dans les créatures. Quand il parle de la croix, on a vu la deuxième conférence, c'est la croix nous arrache à la complaisance dans les créatures. Enfin, ici, il dit refuser de vivre pour soi. Il ne dit pas exactement refuser de dépendre d'un autre. Peut-être que c'est très évident parce qu'il parle d'orgueil. C'est vrai, c'est peut-être très évident, mais il ne le dit pas. Et je trouve que c'est pas. Voilà, moi je vous ai dit, la question c'est que si on en reste là, si je puis dire, on ne comprend pas on ne comprend pas le fond de la violence. On ne comprend pas pourquoi le mal prend ce tour si violent, si agressif. Parce que s'il le fait, à mon sens, c'est parce que justement, ceux qui tuent, ceux qui agressent, s'affirment eux-mêmes dans la négation de l'autre. Hein, alors c'est la négation, là elle prend le c'est agresser ou être indifférent. Et moi je pense que il y a quelque chose dans ce texte dans l'enseignement livré qui est insatisfaisant parce qu'on ne dit pas la violence. Or, c'est, je dirais, la non-violence de Dieu qui nous apprend le plus la profondeur de son amour. C'est ce que nous appelons le pardon. Et là non plus, le mot de pardon n'apparaît pas dans le texte du chanoine allemand.
Miséricorde, pas pareil.
C'est une bonne question. Justement, il va parler de la miséricorde, mais la miséricorde, non, c'est pas pareil. La miséricorde, par exemple, la création est œuvre de miséricorde. La miséricorde, c'est le fait de pourvoir à la misère de l'autre. Mais la misère, ça peut être une misère. Ontologique, c'est sa petitesse, sa faiblesse, etc. Le pardon, c'est plus que la miséricorde d'une certaine manière. Ou si vous voulez, c'est le comble de la miséricorde, c'est-à-dire c'est le fait de ne pas rendre le mal pour le mal, mais c'est de rendre le bien pour le mal, c'est de triompher du mal par le bien. Comme ça, c'est l'expression qu'on trouve chez saint Paul. Si, bien sûr, le pardon, c'est la miséricorde, mais c'est la miséricorde qui va jusqu'au bout d'elle-même. Donc, il faudrait le dire. Vous voyez, c'est ça, alors, encore une fois, on ne peut pas tout dire. C'est aussi toujours la manière très, très formelle, hein, de dire les choses pour qu'on les dise clairement et pour qu'on aille jusqu'au fond des problèmes. Son problème à lui, c'est de nous montrer comment l'Eucharistie peut être dite repas, banquet, il part de là, et de nous faire comprendre pourquoi il ne faut pas opposer repas et sacrifice. Et donc, il va penser ça. Pourquoi est-ce qu'il ne parle pas de sacrifice? Enfin, il parle de sacrifice, mais plutôt d'oblation. Parce que le sacrifice. Alors ça, on le trouve dans la somme de théologie. Quelle est la différence entre oblation et sacrifice? Thomas le dit. Thomas dit, l'oblation n'implique pas la transformation et souvent la mort de la victime. Le sacrifice, c'est pas n'importe quelle oblation, c'est une oblation qui entraîne la transformation, voire la destruction de la victime. Et le fait même que le chanoine allemand mette en avant le terme d'oblation, c'est très bien vu d'une certaine manière, parce que ce qui fait la valeur du sacrifice, C'est pas la destruction, c'est l'oblation. On est bien d'accord. Donc il a bien raison de le mettre devant. Mais mettant en avant cette chose-là, moi j'aimerais qu'il parle de pardon, qu'il parle donc de la violence qui est brisée par le Christ. Et parce que et si je voudrais qu'il le fasse, c'est que encore une fois, si on dit cela. Alors, tout l'enseignement, tout ce qu'il nous dit prend une force encore beaucoup plus grande. Et je pensais, enfin, j'ai deux choses à vous dire, Jean-Louis, ça va
Oui,
encore?
tout à fait, bien sûr. Mon frère, c'est
Je parle
passionnant.
beaucoup.
C'est passionnant.
La première chose, c'est moi, je pensais à Thérèse d'Avila. Thérèse d'Avila est une grande maîtresse de contemplation et de raison. Mais vous savez, Thérèse d'Avila, c'est celle qui dit, et le chanoine n'en dirait pas le contraire, que on n'accède pas autrement au mystère de la Trinité, au mystère de la Trinité qu'en passant par la contemplation de l'humanité de Jésus et de l'humanité crucifiée de Jésus. Elle a cette vision du Christ dans un monastère qui était un Christ, un ecce homo, donc un Christ sanglant, et il n'y a pas d'autre moyen que d'accéder, dit-elle. Je me dis ça parce que c'est justement à partir de cet amour miséricordieux et pardonnant, et donc exposé à toutes les violences qui sont les nôtres par amour de nous, qu'on comprend, lui seul peut vivre ça, comme nous venons de dire, qu'on comprend l'infinité de son amour, la grandeur, la beauté de son amour, au point que, oui, ça a du sens de tout quitter pour lui. Ça, c'était la première chose que je voulais dire. Mais la deuxième chose, quand même, je voudrais enfin, redire l'importance de ce que nous donne le chanoine allemand. Et donc l'importance qu'il y a de travailler les textes qui sont les siens et qui nous réunissent. Je vais le faire à partir de. J'ai trouvé ça. J'ai été voir un film samedi dernier, un film chinois qui s'appelle Le temps des moissons. Oui. Ouais, si vous l'avez vu, hein. De Huo Meng. Le temps des moissons, ça se passe dans la Chine des années 91, au moment où on modernise l'agriculture et que donc on bouleverse un monde traditionnel hein, en le soumettant aux lois de la technique, etc. Et on change les mentalités, etc. Et le cinéaste a réalisé son film, ça se passe, je ne sais plus le nom de la région en Chine, mais c'est au centre de la Chine, et il parle des acteurs qui ont dû tourner son film, je pense, en prenant quelques risques. Le film, finalement, a été censuré, en Chine, hein, parce que, justement, il dit que, la politique, conduite à cette époque, était très déshumanisante. Voilà. Bon, elle a peut-être apporté des choses, mais en tout cas, qu'elle était très déshumanisante, elle a fait souffrir beaucoup de gens. Et il parle donc de ces actes. Donc voilà, disant cela, il est censuré par le régime, parce que ça ne plaît pas à M. Xi Jinping qu'on dise que la politique de l'État soit très déshumanisante et que le grand bond en avant dans le sens du collectivisme et de la technique n'apporte pas le bonheur à tous, etc. Donc voilà, film censuré. Si vous allez le voir, vraiment, je trouve que c'est un film magnifique, sans aucune violence, justement, et que, mais voilà. Alors, le cinéaste, je reviens à lui, parle de ses acteurs et il dit la chose suivante. Je suis très reconnaissant aux acteurs qui ont donné vie au film. Beaucoup d'entre eux subissent une pression immense au quotidien, ce qui, de l'extérieur, peut donner une impression d'indifférence. Eux, comme les gens qui souffrent beaucoup et qui en ont tant souffert, on les trouve, ils sont comme durcis, hein, par la vie. Pourtant, durant le tournage, chacun a imprégné son rôle de ses expériences, fusionnant parfaitement avec son personnage. Et donc, il montre l'empathie des acteurs, hein, parce qu'ils sont capables, justement, ils fusionnent avec leur rôle, ils sont pleins de choses à exprimer. Leur performance comme acteur ne relève pas seulement des portraits fictifs, mais des paysages émotionnels très personnels et complexes, des couches d'émotions qui seraient autrement restées invisibles. La manière dont ils sont entrés dans leur rôle, en y mettant leur cœur et donc en ayant une grande capacité d'expression. Cela a renforcé ma conviction que, peu importe la dureté de la vie dans un système inflexible, chaque individu porte en lui un besoin d'art et d'expression. Mais quand on dit ça, hein, Eh bien, pour moi, c'est, comment dire, une autre façon de dire que la finalité contemplative de notre vie humaine. On pourrait croire que la, comment dire, il faut lutter pour émanciper les personnes de leur situation. Et dans cette lutte violente, on voilà que c'est le fin mot de l'histoire. Mais non, le fin mot de l'histoire, c'est cette capacité que les gens, dans la violence, ont de garder le besoin, il dit ici, d'art et d'expression, c'est-à-dire de contemplation partagée, parce que le fond de l'art, c'est de contempler, c'est de se réjouir de la beauté des choses. Bien, même dans un système aussi déshumanisant que l'est le système chinois ici, c'est un chinois qui parle, sinon vous n'oserez pas le dire, eh bien, l'homme garde au fond lui-même cette capacité de ce désir de beauté et d'une beauté partagée. Et il continue. Je me souviendrai toujours donc de la vieille dame qui incarne la grand-mère du film, me disant à la fin du tournage, merci Meng, c'est le nom du cinéaste, je veux vivre ma propre vie à partir de maintenant. Je veux vivre ma propre vie à partir de maintenant. C'est-à-dire que cette personne a trouvé là, dans cette possibilité qui lui est offerte, d'art et d'expression, elle a trouvé sens à sa vie. C'est-à-dire qu'on a répondu au désir profond qu'il habitait de beau, de vrai, de bonté. Hein. Je veux vivre ma propre vie à partir de maintenant. C'est-à-dire qu'elle est devenue libre. Alors, vous voyez, je pense que approfondir cette conviction du primat de la contemplation et quand on est chrétien, de la manière dont la contemplation s'épanouit en vie théologale, dans la vision. C'est mieux comprendre ce qu'est l'humain, et c'est la raison pour laquelle ce que nous faisons a du sens, quoi, hein, c'est de réfléchir au sens de l'humain. Et là, j'ai pris cet exemple pour dire on est loin, il n'y a aucune référence immédiate à l'Évangile, on est dans une autre culture. Mais je pense que c'est très thomiste aussi et que d'affirmer que oui, il y a des différences culturelles, heureusement, elles sont bénies, hein, mais il y a des valeurs universelles qui nous unissent tous les uns aux autres, humains que nous sommes, et en définitive, c'est ce besoin de beauté, ce besoin de vérité, de bonté, ce besoin de Dieu, hein, nous réunit et qui est promis à son accomplissement dans la vie éternelle par Jésus. Voilà, donc je suis loin de dire que le discours du chanoine allemand ne nous donne pas d'armes contre la violence. Peut-être que ce qu'il nous donne, c'est justement l'arme décisive contre la violence, qui est ce respect de l'humain dans ce désir profond qu'il habite. Hein. Ça, je crois très profondément.